Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Alors moi je m'appelle Olivier Voileau, je suis tourneur-sur-bois.
Et vous êtes avec...
Je suis à Ribéret, dans les Hautes-Alpes.
Avec le stand des eaux
des
et
eaux
des
et
bois.
Des bois, oui, c'est ma marque.
Donc une activité que vous pratiquez depuis combien d'années ?
Alors ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'ai commencé à tourner. Longtemps faisant n'importe quoi, tout seul, et puis je me suis décidé à aller faire des stages, et puis encore des stages, et puis une formation longue pour en faire mon métier.
Alors c'est une activité qui vous permet de créer des objets, mais en même temps de répondre aussi à des commandes de réparation, par exemple.
Oui, ça m'est arrivé, non, réparation pour l'instant j'ai pas fait, mais j'ai eu des commandes de restaurants, par exemple, pour des salières poivrières, des présentoirs pour dans un autre restaurant. Je travaille pas beaucoup à la commande, j'aime bien me laisser mon esprit créatif prendre le dessus. Donc la commande, j'aime bien aussi, mais j'en ferai pas mon activité principale.
Qu'est-ce qui vous a amené à tourner ?
Un tourneur sur un marché, il y a 25 ans, un tourneur sur un marché, j'ai passé des heures à le regarder. Ça m'a donné envie.
C'est fascinant à voir.
Moi, ça m'a fasciné. C'est, en tout cas, moi, ça m'a fasciné. Je me suis lancé avec un petit tour. Et puis, voilà, de fil en aiguille, jusqu'à en faire une activité annexe à mon travail salarié à l'époque et à en faire mon activité à temps plein il y a 5 ans.
Alors, vous avez débuté en faisant un peu au début, comme vous dites, n'importe quoi ?
Autodidacte, en regardant des vidéos sur Internet où on ne comprend pas tout et où le professeur n'est pas là pour dire non, c'est pas ça le bon geste. Donc au bout d'un moment, on ne progresse plus, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc là, on va voir un être humain et on s'aperçoit que ça faisait X temps qu'on ne tournait pas, qu'on faisait n'importe quoi.
Alors, vous parlez de ces vidéos sur YouTube, oui, où on voit des personnes travailler le bois, mais aussi d'utiliser de la résine époxy avec des crayons de couleur, enfin des choses complètement...
La résine... Je suis ambigu là-dessus parce que j'adore le rendu des tables rivières, de l'époxy. On peut faire des très jolies choses comme des choses très moches, mais c'est bourré de produits chimiques, de COV, etc. Donc je me refuse totalement à travailler l'époxy.
Et puis c'est du plastique en quelque sorte.
C'est du plastique, c'est totalement de l'industrie pétrolière. Donc moi, juste pour ce principe, même si on peut faire des choses très jolies avec, juste pour ce principe, je ne veux pas soutenir l'industrie pétrolière.
Et puis c'est une matière qui n'est pas stable dans le temps, j'imagine aussi.
Ils ont fait des progrès, mais il y a beaucoup de résines qui jaunissent avec le temps. Je vois des tourneurs qui font des objets alimentaires avec de la résine qui n'est pas prévue pour. Enfin, voilà, c'est le sujet qui me hérisse le poil. Et moi, je suis tourneur sur bois, et dans tourneur sur bois, il n'y a pas époxy, il y a bois.
Oui. Et quel type de bois vous utilisez ?
Tout.
Est-ce qu'il y a des bois appropriés en fonction de...
Chaque bois a des propriétés qui peuvent être adaptées à faire une certaine chose et pas d'autres. Donc il va y avoir des bois plus tendres, d'autres plus durs. Il y a des bois qui ont très peu de veinage. Bah, pour faire des pièces peintes, ça va très bien. Il y a des bois qui ont des très jolis veinages. Bah, faut pas les peindre, faut mettre en avant le veinage du bois. Donc il y a aucun bois que je refuse. En tout cas, il y a aucun bois que j'ai refusé d'essayer. On me dit, j'ai essayé de tourner du palmier, j'ai essayé de tourner les hampes florales de, comment ça s'appelle, les cactus avec les grandes feuilles pointues, là, j'ai oublié le nom. J'ai essayé, parce que ça vaut la peine d'essayer, tout simplement, pour voir.
Alors les premiers objets consistaient en quoi pour vous ? C'était des objets plutôt utiles ou alors décoratifs ?
Moi je me faisais plaisir, donc c'était... on découvre le tournage, au début on fait des ronds de serviettes, on fait un chandelier, après on a accès au creusage, on fait des espèces de plats, de bols, au début on explore un peu tout ce qu'on voit de classique en tournage. Et puis après, avec la pratique, on évolue, on peut toujours faire des choses relativement simples, et puis on évolue vers des objets plus complexes, plus aboutis.
C'est un métier où vous pensez vous enrichir et d'acquérir de nouvelles techniques sans cesse ?
Alors, ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de stage, mais il y a des rencontres entre tourneurs. À la fin du mois, il y a un congrès de tournage au-dessus du lac du Verdon. On discute on est une centaine de tourneurs, on discute. Il y en a qui font des démonstrations, on regarde. Et même si... dans le monde du tournage, il y a 30 ans, ça a failli disparaître parce qu'il y avait les machines qui faisaient les pieds de balustre, les pieds de canapé, etc. Et donc les tourneurs se sont réunis en disant faut qu'on arrête le tournage de production, et on s'est orienté plus vers le tournage artistique, etc. Et ils ont dit il faut arrêter que les tourneurs meurent avec leur technique, il y en a un qui développe un truc, mais c'était comme à l'époque dans plein de métiers, je donne pas mon truc, et le jour où il disparaissait, la technique était perdue. Et eux, ils ont dit maintenant il faut du partage. Et donc tous les tourneurs, tous les formateurs, etc., ils nous expliquent comment ils font. Mais le but, c'est pas qu'on copie leur production, c'est juste que leur manière de faire inspire notre créativité, et on part sur autre chose, mais on a appris une nouvelle technique, une ouverture d'esprit sur certaines choses, et à partir de là, chacun va avoir son monde. C'est pas pour faire de la copie de ce qu'ils ont fait, c'est juste ils ouvrent des possibilités pour faire de la création.
Et vous avez vous-même constitué ou fabriqué un trembleur ?
Oui. Alors, pendant ma formation, j'en ai fait je crois qu'il faisait 1m20. Et à mes débuts professionnels, je l'ai baladé sur les marchés, mais malheureusement, c'est assez fin et je l'ai cassé pendant un transport. Donc je l'ai toujours dans son tube, mais j'ai pour l'instant pas eu le cœur à le recoller. Il est roulé dans un coin et c'est pas fait pour être baladé. Il a pas supporté le voyage.
Alors le métier de... parce que c'est un métier.
C'est un métier.
Vous en vivez ?
Difficilement, mais j'en vis.
Vous en vivez ? Et un petit peu. Et c'est quand même une activité qui est revenue depuis quelques années. La DIE, par exemple, il en existe au moins deux.
Sur DIE, j'ai fait le marché de Noël à DIE. Fin d'année, il y a Hugo Romain qui a son atelier qui s'appelle l'Armelier, je crois.
Oui, il a repris Jean-Pierre Reynaud.
Il a refait l'atelier. Oui. Et il m'a dit qu'ils étaient au moins trois ou quatre, peut-être même 5 dans le secteur. Ouais.
Et donc c'est une activité qui se développe, et est-ce que ça permet de répondre à des demandes spécifiques de la population, par exemple, par vous, par exemple, est-ce que vous avez...
On répondrait à des demandes spécifiques, je pense que tout le monde en vivrait aisément. Je crois que beaucoup de tourneurs font de la formation, parce que la formation, c'est un bon complément. C'est un loisir qui plaît à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de tourneurs personnels. Et donc, les tourneurs pro, on dispense de la formation pour apprendre les bonnes bases. La formation aide à gagner sa vie. Après, en termes de production, chacun a son monde. Hugo Romain a dit il a vraiment son monde à lui, qui m'émerveille. On trouve chacun notre clientèle. On en vit plus ou moins. Voilà, la formation fait un bon complément. Maintenant, est-ce que ça revient vraiment à la mode ? Je ne suis pas sûr.
Une recrudescence de tourneurs.
Il y a des gens. Oui. Ce qu'il y a, c'est que depuis 10 ans, il y a cette grande école de tournage à Aiguine. Et donc, tous les ans, il y a des centaines de tourneurs qui vont faire des stages courts et une petite dizaine qui vont faire le stage long dans le but de s'installer professionnel. Donc ça lance surtout des jeunes pour s'installer en professionnel. Donc oui, il y en a de plus en plus. En espérant que tout le monde arrive à vivre.
Alors ici, à Toussaint-Botte, vous avez monté un petit atelier de démonstration.
J'ai amené, oui, ils m'ont demandé d'amener un tour pour faire une démonstration.
Qui est de taille plutôt modeste, celui-ci ?
Oui, j'ai pas vraiment de gros tours, parce que je fais pas de grosses pièces. Non. Donc j'en ai un peu plus gros, un peu plus lourd à l'atelier que j'ai essayé de le balader une fois. Ça a été la seule fois. Et il y a celui-là, qui il fait ses 70 petits kilos, mais il se démonte en plusieurs morceaux, ça reste raisonnable pour le balader, il est stable. Et puis voilà, bah aujourd'hui, on a fait quelques démonstrations, on a fait tester à quelques personnes du tournage. C'est une belle journée, des belles rencontres.
Alors comment se procède le tournage ? Vous avez cette pièce de bois qui est plutôt carré hein, de section ou dégrossi au moins.
On prépare le bois en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, ici, en déplacement, j'amène pas de gros outils spécifiques, etc. Je fais des choses simples. Donc là, j'avais des petits carrelés en bois. Oui. J'ai commencé à faire un poivrier que je finirai à la maison. Après, j'avais des petits carrelés pour faire des toupies. Mais finalement, j'ai fait tourner des enfants qui ont essayé les outils comme ça, qui ont mangé du bois pour le plaisir de manger du bois, mais ils sont contents de découvrir les différents outils, ce qu'on peut faire avec. Donc là, plutôt des carrelés, mais après, si on fait plutôt des plats ou autres, bah, ça va être des plateaux un peu plus conséquents.
Est-ce que vous avez, en quelque sorte, des gabarits qui vous permettent d'avoir cette forme que vous devez retrouver sur la pièce ?
Si on veut faire une série qui se ressemble, un gabarit, ça peut aider. Après, il y a des tourneurs, une fois qu'ils en ont fait deux, ils peuvent en faire 50 derrière, ils ont toute la même forme. Moi, je ne travaille pas vraiment au gabarit, je ne fais pas des grosses séries, donc je prends 2-3 mesures, et puis je relis, comme le coloriage, hein, je prends 2-3 mesures, je relis les points, et normalement, la courbe, elle est à peu près bonne entre toutes les pièces.
Et d'ailleurs, vous-même, quand vous produisez des pièces en série, est-ce que vous êtes limité en fonction si c'est un travail artistique ou juste artisanal ?
Non, j'ai pas de limite. Les quelques productions que j'ai fait, c'est un restaurant qui m'avait demandé des salières poivrières. J'ai fait quelques modèles, j'ai proposé, ils en ont choisi un et après j'ai répété. Mais c'est moi qui ai laissé libre cours à mon inspiration sur ces pièces-là. Après, si on fait de la reproduction pour remplacer un bout de balustre qui est cassé ou autre, ben là, naturellement, il y a des codes, des dimensions à respecter. Ça se fait aussi, c'est pas un problème. Ouais. Mais je ne suis pas un tourneur qui planifie. Moi, souvent, je descends à l'atelier, je ne sais pas ce que je vais faire. Oui. Je vais regarder ce que j'ai comme bois et ça va m'inspirer. Et puis, ce morceau de bois, je le sens bien pour faire ça et en avant.
C'est un travail d'empirisme.
Ouais, c'est... Alors, je ne vais pas dire ça devient ce que ça devient, parce que je réfléchis quand même un peu à ce que je commence pas à enlever du bois en me disant bon, je verrai bien. Puis à un moment, je me dis ah oui, je peux faire ça. J'y vais en me disant dans ce morceau de bois, je verrai bien ça. En fonction de la forme, je vois à peu près ce que je peux faire, etc. Et puis bah, je fais tout ce que je peux pour m'en approcher. Mais c'est rare, à part voilà, des commandes spécifiques où je vais faire mes croquis avec des dimensions, des côtes, etc. Sinon, voilà, c'est au feeling devant mon morceau de bois, je vois, puis après, en fonction d'un veinage qui commence à apparaître, finalement, on se dit, bah, ce veinage, je veux le révéler, donc je vais creuser plus, ou je vais... Enfin, c'est le bois qui m'inspire aussi enfin, au moment du tournage.
Fut un temps, moi j'ai, par exemple, chez moi, des vieilles boîtes tournées en bois, qui permettait de mettre des flacons à l'intérieur pour mieux conserver. Est-ce que ça, c'est une activité qui a disparu ? Ou alors, est-ce qu'il y a des demandes spécifiques de clients qui voudraient justement des objets qui soient utiles en même temps ?
Oui, bah après, ma compagne avait son stand là-bas, elle est dans les plantes aromatiques et médicinales, donc des boîtes en bois pour mettre ses plantes, etc. Elle en a un certain nombre à la maison. Moi, je fais quelques boîtes, c'est plus le genre de choses que les gens demandent. Alors j'ai une tourneuse qui est dans la Drôme aussi qui disait sur mes boîtes, je mets un nom, boîte à thé, boîte à quelque chose. C'est juste, ça inspire, ça provoque le déclic où les gens se disent « Ah oui, je pourrais mettre ça dedans ». Une boîte simple. Parfois, les gens, qu'est-ce que je vais faire d'une boîte en bois ? C'est pas la plus grosse demande. Les boîtes, c'est... Enfin, chez moi, dans ce que je fais, c'est pas la plus grosse demande. Mais il y en a qui en font régulièrement et ça se vend. Donc.
Et un bout de bois que vous prenez, que vous tournez, est-ce que vous arrivez à estimer le coût de sa production et dans cette vente? Ou alors, c'est, comment se décide le prix d'un travail?
Le bois, tant qu'on reste dans les bois locaux, et moi, c'est les seuls bois qui viennent d'un peu loin, c'est de la récupération, du recyclage de chute. Voilà. Mais je ne fais pas venir du bois de loin spécifiquement pour mon travail. Après, je travaille avec des bois locaux ou au pire français. Mais il y a plus de 50% du bois, c'est dans un rayon de 20 km autour de chez moi. Alors, soit des gens qui coupent, qui donnent, soit j'achète des billes de bois. Je vais parfois en Syrie acheter des plateaux quand je veux avoir des bois spécifiques. Et le prix du bois sur un objet, sur des bois locaux, on va dire, il est dérisoire par rapport au temps de main-d'œuvre. C'est le temps passé qui va faire 99% du prix.
Après le temps, vous avez acquis cette expérience, cette dextérité. Donc, ça vous prend moins de temps qu'au début, j'imagine.
Oui. Puis quand on doit faire des petites séries, même si c'est pas des copies conformes les unes des autres, mais le premier objet qu'on tente, on le fait en une heure, et on se dit bon, si je commence à en faire une heure, je peux peut-être en faire 10 par jour. Je vais peut-être ramener mon temps à une demi-heure, à temps de main-d'œuvre, l'objet, je peux le chiffrer à temps. Puis après, on s'ajuste, on voit à l'usage, finalement, il y a une petite difficulté technique, ça me prend 40 minutes, et on réajuste son prix sur la production suivante. Mais c'est. Faut faire un premier, voir combien de temps on a mis et se dire avec l'expérience, je sais que je vais réduire mon temps, et c'est là où il faut avoir à peu près l'œil de se dire. Je vais pouvoir gagner tant de temps sur ma pièce, et donc le prix de vente, ça va être ça. Le prix du bois, on le compte même quasiment pas. Je compte quand j'ai des mécanismes de moulin à poivre, etc. Là, il y a un coût d'achat qui est plus important que le bois. Ça, il faut en tenir compte dans le prix de vente. Mais sur des objets sans mécanisme, c'est le prix du bois est quasi anecdotique.
Et comment procédez-vous à la distribution de votre production? Est-ce que vous avez des dépôts-ventes ou alors ce sont des foires
sur des marchés comme ici, quelques marchés l'été, les marchés de Noël. Parfois, on va un peu plus loin sur des foires spécifiques. C'est là, toujours la difficulté de décision, c'est est-ce que je reste sur des marchés plus petits? Dans mon secteur, je dépense moins, je pollue moins pour aller là-bas, mais finalement, les ventes ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Ou je vais sur des événements un peu plus lointains, où le prix d'entrée peut être un peu plus élevé, mais où j'ai un espoir de vendre plus. Quand on a fait quelques bonnes ventes, on se dit, je peux me payer ce marché-là, et puis je peux me permettre de faire 100 ou 150 km ou 200 km pour payer le gasoil pour aller jusque là-bas, en espérant que ça marche. Et puis quand pendant quelques temps, on ne rentre pas grand-chose, on se dit, je ne vais pas investir 200 euros pour aller sur un marché, parce que ça va faire un sacré trou dans le budget, quoi. Et toujours un équilibre à trouver. Alors la logique voudrait dire qu'il vaut mieux aller sur des événements spécifiques. Ça marche toujours mieux que sur un marché hebdomadaire où il y a tout qui est mélangé, quoi. Mais c'est des choix à faire. Moi, j'ai pas envie non plus de sillonner la France dans tous les sens. Et je jette pas la pierre à ceux qui le font. C'est un choix personnel. Je ne critique personne, ceux qui décident de faire de sillonner la France sur des gros événements spécifiques, etc. Ça ne me pose aucun problème. Là, c'est mon choix. Et puis mes choix évoluent en fonction de comment ça marche ou pas.
Pour vous, est-ce qu'il y a une quête d'un objet qui serait un peu le Graal de ce que vous auriez envie de créer? Le Graal du tourneur, c'est quoi?
Je pense que chacun a son Graal. Il n'y a pas d'objet. Après, moi... C'est pas l'objet, c'est la satisfaction d'une pièce, et puis à la fin je la regarde, même sur une pièce simple, on la regarde et on se dit la courbe est bonne, les proportions sont bonnes, c'est plus un graal esthétique que même sur un objet utilitaire, je veux dire. on peut faire un poivrier. Je vais dire tout bête, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'il n'y a rien qui est tout bête. Un truc simple n'est pas bête. Enfin, voilà, on peut faire un objet tout simple et avoir une belle forme. Et puis après, on peut avoir une forme très alambiquée et de même manière où l'esthétique est bonne. Donc c'est mon Graal, il est esthétique. Moi, ma satisfaction, c'est pas la complexité, c'est juste quand je regarde ma pièce et que je suis content de ce que j'ai fait.
D'ailleurs, vous avez un bois de préférence ?
J'aime bien le buis.
Oui.
Et c'est un bois difficile à travailler. Mais on arrive à avoir une brillance, une patine naturelle qui me plaît. Je fais les soliflores avec, on laisse de l'écorce, je laisse une partie bois brut, etc. Et j'adore cette association de... Il y a une partie, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la nature. Et moi, je me suis contenté de rajouter un petit quelque chose. J'adore la beauté du buis, mais quand je suis dessus, je peste souvent.
Il est quand même... c'est sa dureté qui est difficile, mais aussi, est-ce qu'il est propice à peut-être réagir à un mauvais tranchant, par exemple, et de retourner
le buis, si on a un bon tranchant, un bon geste d'outil, il peut être brillant sorti d'outil. Il peut être propre et super beau sorti d'outil. Si on a un mauvais tranchant, peut-être falloir penser quelques heures pour arriver à rattraper tous les petits arrachements, etc. Mais je dis le buis parce que j'aime bien son aspect, mais le noyer peut être superbe, le frêne peut être superbe. J'ai pas de bois de prédilection. Il y a des bois que je trouve. Moi qui, en termes de veinage, etc., je vais les trouver moins chatoyants, moins visuellement attirants. Mais par contre, ils sont agréables à travailler. Et il y a comme le buis, du cormier. C'est des bois qui vont être super beaux à la sortie, mais où on râle en tournant parce que parfois, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc non, moi je prends plaisir à tourner tous les bois et c'est les hasards de l'approvisionnement, de ce que j'ai à disposition, etc. qui vont, parfois je cherche un bois spécifique parce que il me faut des qualités alimentaires, il me faut un rendu ou un truc comme ça. Mais non, j'ai pas de bois de prédilection.
Des hauts et des bas, est-ce qu'on peut découvrir ce travail sur Internet ?
Oula, j'ai une vieille page Facebook qui traîne, qui ne doit pas être à jour depuis, je vais dire, quelques années. Sinon, non, je ne mets pas. Je suis pas un aficionado des réseaux sociaux. Donc,
et pour vous rencontrer, comment peut-on faire alors
au hasard sur les marchés, on a une page Instagram avec ma compagne qui s'appelle la Ferme des Églantiers. Où là, on parle de tout ce qu'on fait à la ferme, que ce soit les plantes, le tournage. On a une roulotte en location et où on annonce un peu les marchés où on va être présent. Et après, sinon, en me contactant, les gens peuvent venir à l'atelier. Je peux proposer des journées de formation aussi. Donc les gens que je rencontre sur les marchés, quand ils sont intéressés, je leur donne une carte. Et puis après, quand ils veulent venir, on se contacte. Soit on trouve un marché pas loin qui les arrange, soit ils passent à la maison et on se rencontre.
Olivier, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné de votre temps pour nous parler de votre activité de tourneur sur bois.
Avec plaisir.
Et bonne soirée.
Merci également.
Au revoir.